Il est 10h07 et on retrouve Guillaume Erner pour le début de service public sur les troubles alimentaires.
Merci Sonia, et vous, on vous retrouve demain pour un autre Instant M. Effectivement, on va parler des troubles alimentaires, à la fois l'anorexie, la boulimie, une véritable épidémie, deux types d'épidémies, à moins qu'il y ait évidemment des causes communes, un rapport à l'alimentation particulier, spécifique à notre époque. On en parle avec vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 et sur notre compte Twitter Service Public FI. Et si vous doutiez de l'humour américain, voilà qui va vous faire changer d'avis. L'État du Texas vient d'autoriser les étudiants et les professeurs de cet État à s'armer, oui, à venir en cours avec une arme. Vous voyez pas ce qu'il y a de rigolo dans cette information? Ben non, jusque-là, c'est pas marrant. Le rigolo, c'est ce qui suit. Les étudiants et les profs texans vont avoir le droit d'être armés pour empêcher les tueries de masse, voilà la bonne blague américaine. Lutter contre les tueurs fous en transformant tout le monde en tueurs, voilà une idée qu'il fallait oser avoir. C'est ce genre d'idée que le psychologue Vaclavic, qui bossait sur le campus d'à côté, celui de Palo Alto, appelait les solutions plus de la même chose. Le principe de plus de la même chose est simple. Si quelque chose échoue, c'est peut-être parce que vous n'en avez pas fait assez. Il faut donc en rajouter. Par exemple, si l'austérité ne marche pas, c'est peut-être parce qu'il faut plus d'austérité. Mais je m'égare, revenons au Texas et à nos tueurs fous universitaires. L'ultra-solution texane consiste à dire que s'il y a des tueries à l'université, ça n'est pas du tout parce qu'il y a trop d'armes. Ça, c'est une idée idiote, une idée européenne. S'il y a des tueries à l'université, c'est bien entendu parce qu'il n'y a pas assez d'armes. Il faut donc armer tout le monde. Une sorte de version américaine du principe d'équilibre des pouvoirs, Montesquieu revu par Chuck Norris, non pas le pouvoir arrête le pouvoir, mais les armes arrêtent les armes. Si tout le monde était armé à l'université, les cours pourraient devenir, différents. Les étudiants pourraient enfin apprendre les sciences et les armes. Et dans ces facs, une tuerie collective venait à bout de tout un amphi. Si elle venait à bout de tout un amphi, eh bien, il suffirait de baptiser cet événement FACOF.
France Inter, service public, Guillaume Erner.
Et puis le sujet du jour, l'anorexie, la boulimie et les troubles alimentaires. On en parle en compagnie de notre psy du mercredi, Serge Eiffez. Bonjour Serge.
Bonjour.
Du professeur Philippe Jamais. Bonjour, vous êtes pédopsychiatre. Vous avez notamment publié Paradoxe et dépendance à l'adolescence aux éditions Faber et Anorexie, boulimie, les paradoxes de l'adolescence aux éditions Fayard. Et puis Valérie Boyer. Bonjour, vous êtes députée maire. Vous appartenez aux Républicains. Vous êtes membre de la commission des affaires sociales et vous avez déposé en 2008 une proposition de loi pour lutter contre l'incitation à l'extrême maigreur. Vous avez redéposé en 2015 des amendements sur le même sujet et il y a 7 ans, lorsque vous avez fait cette première proposition de loi, celle-ci a fait le tour du monde. Pourriez-vous nous rappeler quel était le contenu de cette proposition de loi, Valérie Boyer ?
Alors cette proposition de loi, merci, consistait à faire en sorte que l'apologie de la destruction, en l'occurrence l'incitation à l'extrême maigreur, puisse être pénalisée exactement comme on l'a fait dans notre code pénal pour l'incitation au suicide. C'était la même chose. D'ailleurs, j'ai fait un seul article et j'ai repris les sanctions qui existent pour les personnes qui incitent d'autres personnes à mettre fin à leur jour, à se suicider. Et effectivement, c'était la première fois qu'on parlait dans un hémicycle, à ma grande surprise, de ce problème, de l'anorexie, même si ça semble un petit peu réducteur de le dire comme ça, parce que il y a une différence entre se priver de nourriture jusqu'à altérer sa santé et être aussi malade. Donc, mais néanmoins, c'était important que le code pénal, que la France, enfin dans son droit, sanctionne des comportements à risque et surtout sanctionne des personnes qui incitent d'autres personnes à maigrir jusqu'à altérer leur santé, sachant que l'extrême maigreur, enfin, et l'anorexie est la maladie psychiatrique qui tue le plus aujourd'hui.
Valérie Boyer, comment vous est venue cette idée? Comment, en tant que députée, on en vient à travailler sur le sujet de l'anorexie, des représentations du corps, bien souvent du corps féminin?
Écoutez, c'était au début de mon premier mandat et je crois que c'est mon expérience. Bon, j'ai toujours travaillé dans le monde de la santé, mais c'était mon expérience, j'allais dire, de professionnelle de santé et de mère de famille d'adolescente. Même si j'ai jamais été heureusement confrontée à ça directement, néanmoins c'est des choses que j'avais pu constater et il me semblait intéressant de travailler là-dessus dans notre, enfin en tant que législateur, d'autant que à l'époque, vous vous en souvenez peut-être, mais Roselyne Bachelot, qui était ministre de la Santé, avait travaillé avec le professeur Poulain et le professeur Ruffaut justement sur l'image du corps, et j'avais participé à ces commissions et enfin à ces travaux, cette proposition de loi plus l'autre sur les photos retouchées. Et ensuite j'ai travaillé sur l'obésité, mais en fait c'est la même logique.
Sur les photos retouchées, autrement dit, l'idée étant de ne pas montrer des photos qui pourraient faire croire que le corps est autre que ce qu'il est réellement.
Permettez-moi de vous dire, c'est pas pour ne pas montrer des photos, mais c'est simplement pour signaler quand une image a été retouchée. C'est pas pour l'interdire, hein, parce que les personnes prennent, mettent ce qu'elles veulent. On a quand même la liberté d'expression. Mais il faut quand même traiter la personne qui reçoit l'image comme celle qui l'émet. Voilà. Ne serait-ce qu'en donnant l'information.
Professeur Jamais, vous êtes un spécialiste de ces troubles. Vous avez donc publié Les paradoxes de l'adolescence, anorexie, boulimie. S'agit-il de deux maladies qui possèdent des causes en commun ? Peut-on analyser anorexie et boulimie dans un même geste ?
Oui. Il y a des facteurs communs et c'est vrai que à peu près presque les anorexiques ont très peur de devenir boulimiques et effectivement souvent elles auront des passages au moins boulimiques pour les deux tiers d'entre elles et que les boulimiques souvent se rêveraient en anorexiques mais ça sera plus difficile. D'ailleurs on remarque au passage qu'il est quand même plus facile de lever une inhibition, c'est-à-dire de passer de l'anorexie à la boulimie que de la boulimie à l'anorexie. Donc, quand on a quelque chose qu'on ne contrôle pas et qu'on veut introduire du contrôle secondairement, c'est plus compliqué que l'inverse. Donc, elles sont liées et derrière, il y a une même problématique qui est quand même fondamentalement, comme tous les troubles dits psychiques, à mon avis si peu psychiques, mais tellement émotionnels, ce qui n'est pas la même chose, eh bien, tous ces troubles, ce n'est pas un choix, on ne décide pas de devenir anorexique, c'est une réponse à une contrainte émotionnelle liée à un sentiment de malaise. Il y a derrière tout cela, pour parler très vite, un manque de confiance en soi, et en même temps, une grande insécurité interne et une recherche de retrouver un pouvoir, une maîtrise face à ce sentiment de débordement. Et pour moi, c'est un prototype de ce que se passe chez les êtres humains. Pour moi, ça nous enseigne beaucoup de choses sur ce que nous sommes.
Vous dites cela de l'anorexie. Diriez-vous la même chose de la boulimie que là aussi
C'est la même chose, là. Sauf que ça ne va pas être les mêmes tempéraments. C'est-à-dire que n'importe qui ne deviendra pas anorexique. Contrairement à ce que croient souvent ces jeunes filles ou même ces garçons, parce qu'il y en a aussi, eh bien, ils ne choisissent pas. C'est fonction de leur tempérament, n'importe qui ne pourra pas faire cela. Et pareil pour la boulimie. Bon. Donc, il y a à la fois une problématique, disons, de malaise commune, d'insécurité, de manque de confiance, comme derrière tous les troubles, encore une fois, dits psychiatriques, et une réponse qui, elle, dépend à la fois d'un tempérament et, comme toujours, de la rencontre de ce tempérament avec l'environnement. Et c'est là où je félicite Boyer, d'ailleurs, de son action, parce que, bien sûr, c'est pas ça qui crée l'anorexie, mais ça va faciliter la réponse pour ceux qui sont fragiles. On y reviendra probablement.
On écoute Yael Naïm Trapped, un disque choisi par Stéphanie Texier et Thierry Dupin, et tout de suite après, on continue à évoquer les troubles du comportement alimentaire.
Service public 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.
I'm trapped in my soul, feeling that I'm
service public sur France Inter, l'anorexie, la boulimie, les troubles alimentaires, on en parle en compagnie du professeur Philippe Jamais, pédopsychiatre, qui a notamment publié Anorexie, boulimie, les paradoxes de l'adolescence aux éditions Fayard, la députée maire Valérie Boyer, qui appartient aux Républicains, qui est membre de la commission des affaires sociales et qui a déposé en 2008 puis en 2015 des propositions de loi pour lutter contre l'incitation à l'extrême maigreur, et notre psy du mercredi, Serge Effèze. Serge, on voit sur Internet beaucoup de sites, des forums où des jeunes gens, souvent des jeunes filles, évoquent l'anorexie, des sites qu'on a eu envie d'interdire, qu'on cherche parfois à interdire. En tant que psychiatre, que pensez-vous de ce désir d'interdiction ?
Moi, comme vous le savez, je me méfie toujours de l'interdiction avec cette idée que l'interdiction va forcément protéger. L'interdiction, ça peut parfois consister à plutôt lutter contre les malades que lutter contre la maladie. Donc, bien évidemment, je pense que c'est important et que c'est notre tâche d'adulte et de législateur de lutter contre des messages extrêmement précis qui vont inciter, qui vont expliquer comment maigrir encore plus, comment truquer ces rapports avec les médecins pour faire croire qu'on a pris quelques grammes alors qu'on les a plutôt perdus. Mais tout de même, l'ensemble de ces sites, c'est aussi des autosupports, c'est aussi des groupes de référence auxquels les jeunes filles, dans lesquels les jeunes filles rencontrent d'autres personnes. C'est parfois le seul lien qui les rattache avec un lien social. Et je pense qu'il faut se méfier de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a une étude très intéressante qui s'appelle l'étude Anamia, qui a été menée entre 2010 et 2014 par l'École des hautes études et par le CNRS, qui était vraiment une étude interdisciplinaire, et qui montre que la répression des sites est plutôt inefficace, c'est-à-dire que elle conduit plutôt à plus d'invisibilité qu'elle ne résout de problèmes.
Valérie Boyer.
Alors, deux choses. D'abord, il n'y a pas forcément dans la loi un désir d'interdiction, un désir de répression forcenée. Je pense que la loi est là pour réprimer, oui, parce que c'est comme ça que le droit français est fait, il doit le faire grief. Mais la loi, elle est là aussi pour signaler. Et je pense que c'est important que la société envoie des signaux disant « nous ne sommes pas d'accord avec l'apologie de l'autodestruction ou l'apologie de la destruction ou l'apologie de choses morbides ». Ça, c'est la première chose. Et je pense que c'est important de le dire. Ensuite, le juge, il est là pour dire si ces sites sont des sites de support ou si ces sites sont des sites d'incitation à des comportements funestes, morbides. La première chose. Ensuite, l'autosupport, enfin, c'est vous le médecin, mais moi, je pense que le seul support quand on est malade, c'est d'aller voir son médecin. C'est pas de se soigner en tenant un site internet. Je pense qu'il faut c'est pas très sain de dire ce genre de choses. Il me semble que aujourd'hui, quand on est malade et quand on est tellement malade que on met sa vie en péril, parce que c'est ça qui se passe, on met sa vie en péril. Ces filles qui sont tellement maigres, elles ont plus leurs règles, elles perdent leurs dents. Enfin, c'est quand même catastrophique. Elles perdent leurs cheveux. Absolument. Elles mettent leur avenir, même si elles guérissent en péril.
Et ces filles, comme vous dites, elles ont beaucoup de mal à aller contacter le milieu médical. C'est pour ça que j'aurais préféré qu'on mette une visibilité et sur la gravité du problème et sur l'insuffisance criante de réseaux de prise en charge des troubles alimentaires en France, c'est-à-dire quelque chose qui soit plutôt un message positif qu'un message d'interdiction.
Alors, si je peux me permettre, il y a les deux, il y a même les trois. D'abord, ça c'est le code pénal. Moi, ma proposition de loi, c'est le code pénal, c'est pas le code de la santé publique. En revanche, dans le code de la santé publique, j'ai créé un livre sur les troubles du comportement alimentaire dans la loi Hôpital Santé Patient Territoire. Et dans ce livre, dans le code de la santé publique, je l'ai enrichi sur l'obésité et sur la maigreur excessive. Donc, nous avons ces supports. Et puis, il y a aussi le PNNS, le Plan National Nutrition Santé, qui traite des troubles alimentaires, de l'obésité, de la boulimie, enfin, et de l'anorexie.
Professeur Jamais, que pensez-vous de ce dialogue ? Selon vous, est-ce qu'il y a un caractère épidémiologique dans l'anorexie ? Est-ce que ça peut s'attraper sur Internet ?
Non, ça ne peut pas s'attraper sur Internet.
Non.
Personne. Il faut, encore une fois, contrairement à ce que pensent beaucoup d'anorexiques, elles ont beaucoup moins décider qu'elle le croit. De même pour fumer, vous savez qu'il y a des tas de facteurs qui font favoriser que la fume de la cigarette pour vous va avoir un effet bénéfique alors que pour un autre ça va le gêner. Donc, et tout ça c'est pas voulu contrôler, ça dépend de notre tempérament. Mais ce débat, l'important c'est qu'il ait lieu. Bon, et il y a toujours une tension entre en effet l'interdiction et en même temps permettre l'expression. Donc c'est pas interdire pour interdire. Mais en même temps, on est responsable quand même, les adultes sont responsables de ce qui se dit. Et là, compte tenu du caractère quand même ravageurs de ces troubles, un petit peu comme pour les cigarettes. On peut mettre aussi, dans les sites, il pourrait y avoir un avertissement sur c'est une maladie quand on est enfermé dans ce comportement anorexique, sur ses conséquences, sur on ne choisit pas d'être anorexique, et surtout sur un grand principe qui me semble très général. Oui, et on n'a pas à s'abîmer pour se sentir exister. Mais le problème, c'est que quand on est mal, quand on se sent mal, il faut qu'on est poussé, je pense, biologiquement, pas psychologiquement, à agir. Et que malheureusement, ce sur quoi on peut avoir une portée immédiate dans l'action, c'est toujours des éléments au fond de privation ou de destruction. Si vous voulez aller vers les autres, eh bien vous ne maîtrisez pas, la vie ne se maîtrise pas. La destruction, vous n'avez besoin de personne pour vous abîmer. Si vous voulez plaire, si vous voulez entrer en contact, vous avez besoin des autres. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très profondément ancré qui fait qu'il y a une tentation destructrice chez tout, chez chacun de nous, quand on se sent impuissant, frustré. On a toujours une possibilité de détruire, et Dieu sait si l'actualité nous le montre. Et ça, il faudrait qu'on le dise. Tous ces comportements, c'est pas juste. C'est pas fou de faire une anorexie, c'est pas juste que pour se sentir moins mal, on soit contraint d'abîmer son corps. Et c'est pas en fait ce qu'on cherche. Ce qu'elles cherchent, c'est d'être moins mal. Et sur le moment, elles peuvent se sentir moins mal en étant anorexiques.
Alors, on a parlé des sites sur Internet qui constituent en quelque sorte des forums pour ces personnes souffrant d'anorexie. Il existe également des groupes de parole. Bonjour Raphaël Mantoux.
Bonjour Guillaume.
Vous êtes allé sur le terrain à la rencontre d'une association qui propose des solutions aux personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire.
Oui, et comme chaque mois, Sabrina Palumbo attend les quatre personnes avec lesquelles elle va échanger autour de leurs troubles alimentaires. Coralie, Anne-Caroline, Marine et sa mère s'installent en cercle à l'intérieur d'une pièce prêtée par la Maison des Associations de Clamart. Elles sont anorexiques ou orthorexiques. Sabrina va les guider dans la prise de parole, mais elle rappelle d'abord que les mots d'ordre sont dialogue, partage et écoute. Elle insiste sur l'importance de la bienveillance face aux troubles du comportement alimentaire. Reportage.
Donc je vais vite laisser la parole. Un petit sourire de timidité, mais je pense que... Ouais. Voilà, tu nous fais le plaisir d'être là ce soir.
Et puis pour ceux qui ne te connaissent pas encore, si tu veux ton prénom, ton nom.
Alors,
t'es toute jeune aussi.
Oui, donc je m'appelle Anne-Caroline, j'ai 22 ans. Je travaille en école maternelle depuis 4 ans. Il faut s'en sortir, on sait qu'on va s'en sortir, on ne sait pas quand, mais voilà, il faut. Parce que je suis qu'au tout début, je suis assez restrictif de plus en plus au niveau de mes repas, donc c'est vrai que ce n'est pas non plus excessif, je ne suis pas. C'est pas encore vomitif, mais voilà, donc je préfère échanger, comme ça, ça me fait penser à autre chose, et je suis pas dans ma complainte, et puis dans mes petits soucis, quoi, parce que je suis pas la seule, c'est rassurant, on se dit, on n'est pas les seuls, quoi.
Et c'est vrai que, c'est ce que tu dis, chaque petit pas compte.
Moi, je veux dire que depuis que ma fille connaît l'association, il y a beaucoup d'améliorations, ça va beaucoup mieux, on a l'impression qu'elle est beaucoup plus...
Plus ouverte
aux autres. Ouais. Elle m'étouffe moins.
Là, on va dire que j'ai vraiment mis le doigt sur ce qu'il faut que je travaille. Je sais vraiment le problème, là. Et je sais que là, il y a un travail qui est en train de se faire en moi, même inconscient. C'est des cauchemars, des choses qui me reviennent, des images de l'enfance que j'avais complètement inculquées. J'envisage de parler à mon père. Alors, je sais que mon père, c'est 80% de la cause de la maladie. Je fais le deuil de mon père. J'attends plus sa reconnaissance, j'attends plus son amour, j'attends plus rien.
Et du coup, les projets pour les vacances, on va parler, parce que là, ça va... Est-ce que vous partez? Est-ce qu'il y a... Voilà.
Moi, je vais faire le premier pas de voir mon oncle et ma tante que j'ai pas vu depuis plus d'un an, justement à cause de la nourriture.
Vous habitez en région parisienne?
J'ai du mal, parce que voilà, j'étais là à restreindre tellement que du coup, mes repas se contentent à deux fois par semaine. Le lundi, après, je choisis mon jour de semaine... À manger que des pâtes, en fait, souvent. Je mange plus de riz, plus de viande, plus de machin. Je dirais que quand ça évolue d'un ou deux kilos, ça empire. Je suis toujours là avec acheter mes coupe-faim, mes machins, mes drainages. Quand j'ingurgis quelque chose, c'est fini, quoi. Moi, ma digestion se va jusqu'au lendemain. Si je mange une salade, je sais que jusqu'au lendemain du repas de midi, j'aurai ma salade qui va tourner, quoi. Le moindre truc, c'est fichu, quoi. Alors j'avais mes périodes, un coup j'avais mes périodes fruits, après j'avais mes périodes, je sais pas, laitage. Et depuis, j'ai réduit, et à force, j'ai toujours, mais le matin je me pèse, alors qu'il faut pas se peser tous les matins. Si on m'enlève ça, c'est
pas possible. T'as besoin de ces repères, de ce contrôle.
Ah oui, sinon je suis perdue. je me dis mais pourquoi je fais ça alors que je sais qu'il ne faut pas le faire.
C'est le regard des gens. Hein.
Ouais. Bah, même dans la rue, on ne voit pas. Quoi. Je suis à fond en train de marcher, je vois mes pieds. Quoi. Ouais. Je sais qu'on va me juger alors qu'en fait, les gens, ils s'en fichent. Quoi. Sur l'instant présent, dès qu'on me regarde ou dès qu'on rigole, ça y est, c'est fichu. Depuis que je suis jeune, c'est vrai que j'ai du mal à, comme on pourrait le remarquer, à regarder les gens. C'est-à-dire que quand on va me regarder, c'est soit par la honte ou je sais pas.
Et toi, tu te sens vraiment jugée ?
Tout le temps, constamment. J'ai du mal à accepter que les gens m'aiment parce que moi, je m'aime pas. Donc forcément, je peux pas faire un échange. C'est compliqué, en fait. C'est le déni, ouais, aussi de ça, quoi. Peut-être de l'enfance, parce qu'en fait, je suis une enfant adoptée. Donc forcément, au niveau de ça, ça a été compliqué, voilà. Pendant 4 ans où, en fait, dès la naissance, on m'a abandonnée. C'était en Roumanie, en fait. J'étais dans un orphelinat en Roumanie. J'ai raconté trop ma vie, là. Faut me dire stop, hein, quelquefois, quand je commence, ça y est, on m'arrête plus. Non, c'est tout le contraire, ça y est. Je dis bon courage avec moi. Hein, il y a du boulot. Hein.
Donc, au-delà de l'écoute, l'association Sabrina TCA propose d'informer sur les troubles alimentaires et elle propose aussi différents types de solutions pour soulager les patients.
Merci. Raphaël Mantou, professeur, jamais ces propos sont-ils représentatifs de ceux que vous entendez, vous avez entendu en consultation?
Oui, oui, assez bien. C'est-à-dire, vous voyez, on trouve le malaise. Alors, il prend des formes très diverses. Là, on a plusieurs variantes, mais il y a toujours quoi? On se sent mal. Derrière tous ces troubles-là, il y a la peur, il y a le sentiment de menace, de précarité, aggravé par la solitude. Et c'est là qu'on rejoint le débat de tout à l'heure, que c'est vrai, dès qu'on s'ouvre, ce qui fait la maladie pour moi, c'est pas d'avoir un trouble, c'est de s'enfermer dedans. C'est-à-dire que ça devienne une réponse qu'on ne contrôle plus et qui est pathogène. Pourquoi? Parce qu'elle vous prive de ce à quoi vous avez droit, c'est-à-dire un corps des relations et d'accroître vos compétences. C'est les trois domaines qui font la vie. Et elle nous prive de cela. Donc là, il y a une ouverture. Alors après, qu'est-ce qu'on fait de cette ouverture? Et là, c'est très bien des choses comme ça. Moi, je suis tout à fait pour. On voit que ça permet, ça a été dit d'ailleurs, elles sortent de leur solitude, ça donne un sens à ce qui se passe. Mais alors après, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, évidemment, on va voir qu'on va soulever des choses importantes. On a entendu l'adoption, des problèmes avec le père, enfin bon, les points de suspension, enfin bon, ça interroge beaucoup. Et là, il faut que ces lieux d'accueil sachent aussi ne pas enfermer les patients, soit en leur dictant « moi j'ai résolu les choses comme ça, donc toi tu dois croire comme moi et faire comme moi », soit les empêchant d'aller consulter aussi, là où on pourra aider à redonner du sens. Parce que le danger, c'est qu'on trouve que parce que j'ai été adopté, donc c'est la cause de tout.
Ce qui est très poignant dans ce reportage, c'est d'entendre ce poids du regard des autres. Cette adolescente qui parle de... C'est la façon dont elle est effractée par le regard des autres. C'est comme si le regard des autres pouvait pénétrer à l'intérieur d'elle-même. Et on voit bien qu'effectivement, la gestion des émotions, comme vous le disiez, Philippe Jamais, est très problématique. Et on entend aussi beaucoup de choses sur la famille. Et ça, je voudrais quand même dire une chose, c'est que dans la prise en charge des anorexiques, la prise en charge familiale, elle est fondamentale. Et d'ailleurs, sur toutes les études, c'est même celle qui fonctionnerait le mieux, non pas parce que la famille est responsable de l'anorexie, mais parce que l'anorexique prend une position de toute puissance tellement forte dans sa famille, cristallise tellement autour d'elle toutes les tensions familiales, devient d'une certaine façon le bouc émissaire de sa famille, que si on ne traite pas toutes les relations familiales, eh bien c'est très difficile d'en sortir.
Nous avons Jean-Michel qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Nous vous écoutons Jean-Michel, nous écoutons votre question, votre témoignage.
Alors, mon témoignage, c'est ma fille était Anna Mia. Mon témoignage, il vient surtout au niveau des parents. En fait, on se sent souvent mis à l'écart. Beaucoup de parents ont un problème, c'est de ne pas comprendre et de ne pas admettre. C'est difficile de comprendre, d'admettre et de réagir face à cette maladie. En fait, on est autant partie prenante de la maladie que nos enfants. Le problème, c'est que souvent, on a des très mauvaises réactions. On les culpabilise alors qu'ils se sentent déjà coupables. On se culpabilise, nous aussi. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et je crois que ça n'est pas aidé l'enfant. Et je trouve que là-dessus, par contre, il n'y a pas vraiment d'aide qui soit apportée aux parents pour leur dire qu'ils ne sont pas là pour résoudre la maladie, qu'ils ne sont pas là pour admettre la maladie, mais qu'ils sont là pour comprendre, avoir les bonnes attitudes. Je vais prendre un exemple, trois exemples. Ma fille était Mia et Anna. J'ai collé mon oreille contre la porte des toilettes pour l'entendre vomir. J'ai fermé le frigo pour pas qu'elle se serve. Et quand elle ne mangeait pas, je lui disais, mais arrête, il faut que tu manges. En fait, tout ça, ça ne faisait que la culpabiliser et que l'inciter à continuer parce que elle se révoltait contre nous. Et je pense qu'on devrait aider beaucoup plus les parents à avoir les bonnes attitudes.
Professeur Jamais, par rapport à ce que vient de dire Jean-Michel, lorsqu'on est parent d'un enfant anorexique, boulimique, quel comportement adopter ?
Mais justement, ce qui est très important, là encore, c'est de ne pas rester seul, de ne pas vouloir résoudre les problèmes par la maîtrise de la situation. Donc, et il faut s'ouvrir, là encore. Et Serge Fess vient de le dire. C'est, on ne peut plus, je dirais que c'est le cas de tous les troubles dits mentaux, qui encore une fois sont des troubles avant tout émotionnels. Quand vous êtes dans une situation de peur et de stress, eh bien votre stress ne pourra s'améliorer que si l'environnement contribue à l'abaisser. L'environnement le plus important, c'est d'abord la famille.
Quel est le lien qui se noue entre un enfant anorexique et ses parents ? S'agit-il de traiter en quelque sorte toute la famille ? Comment ?
Le problème, c'est pas la maladie, c'est de trouver une dynamique. C'est pas l'étiquetage. L'étiquetage, c'est simplement un moyen de dire là, il y a un mode de réponse. Et personnellement, moi, je parle de ces modes de réponse en disant au fond, ce sont des conduites adaptatives de réponse au stress, mais elles sont pathogènes parce qu'elles sont destructrices. Alors, ensemble, on va chercher d'autres modes de réponse à cette angoisse qui est derrière. Et les décoller de tout cela. Ouais, c'est la conception qu'on a qui change. Hein. Et à l'intérieur de la famille, le problème, c'est que l'angoisse, elle est très, très, très contagieuse. Et qu'en plus de voir votre fille risquer mourir de faim devant vous, alors que ce n'est pas un suicide, hein, ce n'est pas une volonté même pas de suicide, le saurait-elle d'ailleurs que ça serait aussi un problème insupportable, eh bien, effectivement, ça va entraîner des réactions émotionnelles
massives. En ce sens, traiter toute la famille, c'est fondamental. Parce que vous entendez ce père, Jean-Michel, il dit, on me disait que j'étais incompétent. Quoi que je fasse, je ferme le réfrigérateur, j'écoute aux toilettes, tout ça, on me dit que je fais mal. Or, il s'agit justement de rétablir les compétences des familles autour des questions d'anorexie et de montrer aux parents qu'ils ne sont pas responsables, mais qu'ils peuvent avoir une action positive. En ce sens, Philippe Jamais, il a une unité de thérapie familiale dans le service qu'il a dirigé à l'hôpital universitaire, à la Salpêtrière, j'en dirige une autre, on reçoit beaucoup d'anorexie. Prendre en compte l'ensemble de la famille, c'est fondamental.
Valérie Huboyer.
Oui, alors évidemment, je souscris à ce qui vient d'être dit. Et ça, en tant que législateur, je dirais que c'est l'organisation des soins que nous devons mettre en place. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, à Marseille, il y a une maison de l'adolescent où on traite toute la famille. Mais c'est vrai que vous avez raison d'insister. En général, quand il y a une personne malade dans une famille, c'est toute la famille qui est impactée. Et là, en l'occurrence, pour tous les troubles psychiques, c'est peut-être encore plus difficile parce qu'il y a ce sentiment de culpabilité de tout le monde. Et il est vrai qu'il faut aussi ne pas oublier les frères et sœurs de ces familles. Quand il y a une sœur, en général, qui est atteinte de ce trouble, ben c'est toute la famille qui est malade avec elle, quelque part, parce que ça crée une tension extrême. Alors, la loi, elle n'est pas là pour tout régler. Néanmoins, on l'a vu, il est important d'abord que ça existe dans le Code de la Santé publique, que le Code de la Santé publique permette à tous ces traitements différents d'exister et de s'organiser sur le territoire. Et c'est ce que nous essayons de faire quand on traite des lois de santé. C'est la raison pour laquelle il était important d'ouvrir un livre sur les troubles du comportement alimentaire et de les traiter dans leur globalité, que ce soit l'organisation des soins ou la promotion de certaines campagnes de prévention.
Absolument. Et là, ouais, ce qui est important, c'est aussi de réfléchir sur la conception de ce qu'est la maladie mentale. Parce que vous voyez qu'en parlant de mental, derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Mais c'est un caprice, comme si elle voulait bien. Si est-ce qu'elle se donne les moyens, c'est comme les gens qui ont dit, mais il n'y a qu'à avoir de la volonté, mon vieux. Mais ils ne se posent pas la question de pourquoi ils ont envie d'avoir de la volonté. Et là, c'est beaucoup plus. Ça dépend de l'éducation, ça dépend aussi beaucoup de notre histoire et de notre tempérament et de notre biologie. La volonté, ça vient aussi de nos neurotransmetteurs. Et là, on voit bien la différence. Et donc, de comprendre que ce n'est pas un caprice, voyez, et qu'il faut ensemble trouver une solution. Comme pour la vie, comme pour le reste de la vie, et ne pas les laisser s'enfermer dans ces impasses.
Karim nous appelle de Saint-Lô. Bonjour Karim.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons, Karim.
Oui, alors moi je voulais vous appeler, c'était au sujet d'un sujet dont on ne parle jamais, l'anorexie masculine. Voilà, de gamines, je dirais de 14-15 ans.
10%.
Qui veulent suivre des diktats un peu de magazines féminins. Mmh. Or là... je suis un homme de 40 ans. Mmh. Et en fait, moi, je voulais expliquer ma tendance anorexique. Oui. Je voulais expliquer ma tendance anorexique, en fait, suite à un harcèlement à mon travail, sur mon lieu de travail, qui a été très très dur, très très dur à vivre. En fait, j'en ai eu des séquelles, des troubles de santé, voilà. Harcèlement, bah, technique au passage, je dois bien le dire. Et donc, c'est ce trouble de santé qui me provoque de l'anorexie. Voilà.
On vous entend pas très très bien, Karim. Et aujourd'hui, vous avez réussi à guérir ce trouble. Comment allez-vous ?
Pas tout à fait. Non. J'ai des hauts, j'ai des bas. C'est une discipline constante qu'il faut avoir, je pense.
Merci Karim, la liaison est assez mauvaise. Professeur, jamais des hommes peuvent-ils souffrir d'anorexie ?
Oui, bien sûr.
Est-ce qu'il peut y avoir des causes comme cela exogènes, telles que aussi, par exemple un train ?
Enfin, la vie est une co-création entre un organisme et un tempérament, un individu et son environnement.
La vie est une cause exogène.
Voilà. Bon. Donc la vie, c'est une co-création. On l'oublie, on a l'impression qu'on existe comme ça. Mais non, on n'existe que dans un échange permanent, et que la vie, ça consiste à s'adapter. Bon. C'est pour ça que je parle de conduite adaptative. Et quand vous êtes mal, eh bien, on est programmé, je dirais, biologiquement. Parce que ce qui dirige la vie, c'est pas le principe de plaisir, c'est l'évitement de trop de déplaisir. Ça, c'est automatique. On n'est pas fait pour être dans une tension permanente. Et le monsieur le dit très bien, ça peut être le travail, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être des tas de choses. Le problème, c'est que vous êtes sous une pression insupportable. Il va falloir agir. Et là, les comportements d'action, comportements que j'appelle destructeurs, qui sont tous les troubles dits psychiatriques, sont des réponses pour pouvoir retrouver quoi, un sentiment de pouvoir. Ce qui fait qu'on est mieux, c'est qu'on a le sentiment de retrouver une réponse partielle à son malaise. Malheureusement, ça ne va faire que l'augmenter. Et comme on est de plus en plus mal, eh bien on se cramponne de plus en plus au comportement qui s'est mis en place. C'est pareil pour tout, vous voyez. Et c'est pas voulu. Et c'est ça qu'il faut comprendre et voir comment ce sujet peut trouver un autre moyen de répondre à son malaise, un malin qui soit pas destructeur et non pas celui-là qui n'a pas choisi et qui s'impose. Et ça, il faut que notre conception change. On est resté moyenâgeux à l'égard du trouble mental quand même.
Marie nous dit sur Internet que l'accompagnement est complexe en France. Marie souffre de troubles alimentaires depuis un an. Elle explique qu'il est très compliqué de se faire accompagner et soigner. Pas d'accompagnement après l'hospitalisation. Elle a l'impression d'être toute seule. Valérie Boyer, est-ce justifié ?
Écoutez, je connais pas le cas de cette personne.
Alors, au-delà c'est du
compliqué.
Cas particulier.
Enfin, normalement, aujourd'hui, elle peut avoir des consultations, elle doit être suivie, il y a des groupes. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place et qui correspondent, je dirais, à chaque malade son traitement.
Bon, on a compris qu'on ne pouvait pas s'en sortir seul, que ça n'était pas uniquement une question de volonté, une question de caprice. Cela signifie donc que toute personne malade doit évidemment aller voir un médecin.
Oui, bien sûr,
trouvez-vous, Valérie Boyer, qu'aujourd'hui les structures soient satisfaisantes pour accueillir les malades ?
Probablement pas assez, mais il y a quand même de gros progrès qui ont été faits, et notamment il y a une prise de conscience de ces pathologies qui est importante. Et je crois qu'on a complètement changé aussi de regard. Moi, j'ai quand même le sentiment que récemment les choses ont évolué dans le bon sens, entre guillemets, de la prise en charge. Alors maintenant, il y a probablement pas assez de moyens, peut-être pas assez de dépistage, il y a toujours des choses à améliorer, mais aujourd'hui nous sommes tout à fait conscients de ça. Il y a des maisons de l'adolescent un petit peu partout en France où ces troubles du comportement alimentaire sont traités. Il faut probablement aller plus loin dans l'organisation des soins et dans les moyens, mais je pense aussi qu'on comprend que ces comportements doivent pas être érigés non plus en modèle. Et ça, c'est important que la société ait ce regard-là sur on sait que c'est une maladie, on sait que c'est comme vous venez de le dire, monsieur, que c'est pas un caprice. Maintenant, la société doit savoir aussi que c'est pas un modèle. Et ça, c'est il y a différentes catégories, quoi.
Professeur Jamais, donc on a compris qu'il fallait consulter, encore une fois, qu'il y avait
ne pas s'enfermer. Voilà, c'est le leitmotiv. Mais pour tout. Dès qu'il y a un comportement qui vous abîme, que ce soit la cigarette, la drogue, il faut s'ouvrir. Bon. Et comprendre que c'est pas une honte et que, encore une fois, c'est pas vraiment voulu par nous. Sauf que on est moins mal en le faisant. Donc c'est assez logique qu'on s'y accroche.
On est moins mal jusqu'à mourir, des fois.
Lorsqu'on va voir un psychiatre, puisque c'est bien souvent...
Mais on se détruit en même temps.
Voilà. C'est bien souvent chez le psychiatre. que ces troubles sont explorés, analysés? Est-ce qu'il faut par ailleurs avoir un autre suivi médical?
C'est-à-dire, oui, il faut qu'il y ait en général, ce qui est préconisé dans les formes, c'est qu'il y ait en effet du relationnel et en même temps une surveillance de l'état physique. Bon. Et qu'on travaille, comme dans beaucoup de domaines de cet ordre-là, il faut travailler en réseau, avec les parents, avec les autres, avec les pédiatres, avec le médecin généraliste. Il faut qu'il y ait un réseau. Le problème, actuellement, c'est que c'est très mal réparti en France. Il y a des véritables déserts. Il y a des zones où il n'y a pas d'organisation. Et que dans des endroits, dernier point, je voulais dire parce que c'est important, parce qu'on n'en a pas parlé, mais la chronicité, on en meurt, hein, 10% vont, près de 10% vont mourir, hein, c'est ce qui tue le plus, hein, dans les maladies dites mentales, et une partie vont se chroniciser. C'est terrible, l'anorexie chronique. Il y a quelques services qui savent les traiter, c'est une renutrition très délicate. Malheureusement, on enferme, parce que, vous voyez, au niveau de... On dit, c'est pas sérieux, on retrouve là encore le préjugé, mais mental, donc, si elle voulait bien, c'est pas... Mais non, c'est aussi grave qu'un cancer, ça va vous détruire, alors qu'il n'y a aucune fatalité restée.
Cas, là, je voudrais bien le dire dans mon sens.
Il n'y a pas de fatalité. Moi, j'en ai vu guérir au bout de 20 ans de soins.
Bon. Claudine nous appelle de Paris. Une dernière auditrice, rapidement. Claudine, bonjour, nous vous écoutons.
Bonjour, merci pour l'appel. Je suis très émue. Pardonnez-moi.
Voilà. Je vous en prie, Claudine.
J'appelle pour signaler, en fait, ce qui me semble important, c'est qu'on ne parle très souvent que de l'anorexie des adolescents. Les troubles alimentaires, on les réduit très souvent à l'adolescence. Or, ça touche aussi des adultes. Et on est un exemple sous les yeux.
On a un vrai problème de téléphone. Claudine, mais j'ai votre fiche sous les yeux et vous dites que l'anorexie de votre fille s'est déclarée à 30 ans, autrement dit donc un âge évidemment postérieur à l'adolescence. Mmh. Professeur Jamais, lorsqu'on a un enfant, un grand enfant, qui souffre d'anorexie, là aussi il faut...
Oui, mais le fond du problème est le même, il ne faut pas le laisser s'enfermer dans cette conduite. On retrouve souvent un petit passage anorexique au moment de l'adolescence, et c'est effectivement, moi j'ai eu plusieurs cas de personnes en maison de retraite faire de véritables anorexies, c'est-à-dire, c'est pas je ne mange plus parce que je suis déprimé, si elle retrouve l'hyperactivité, le moteur, mais avec une vraie conduite anorexique. Et c'est là où on voit toute la part biologique de cette réponse, hein, au stress par ces conduites-là à tout âge.
Alban nous dit à quel moment... Il y a des nourrissons même qui font des anorexies, il faut le savoir. Hein.
Oui. Alban nous dit à quel moment un comportement alimentaire doit-il alerter?
Ouais, c'est simple, c'est à partir du moment où il devient, où il y a le côté contraignant, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à lutter contre, hein, et que les conséquences sont qu'ils abîment le corps et qu'on n'a pas à s'abîmer. Alors, on a parlé de l'anorexie, mais c'est pareil pour la boulimie. Bon, c'est pas d'en avoir fait une crise ou d'avoir eu un passage anorexique qu'il faut pas se dire pour autant, tiens, elle est définitivement toute sa vie à l'anorexie. Non, de même qu'on peut fumer et ne plus fumer, on a des propensions à répondre de telle ou telle manière. Elles sont pathogènes parce qu'elles sont destructrices. Donc, dès qu'on voit quelqu'un s'enfermer dans des conduites qui l'abîment, on lui dit à la fois, c'est pas fou, parce que toi, tu te sens mieux sur le moment, sauf que le prix à payer n'est pas juste. Et là, sur le moment, tu t'en rends pas compte. Voilà, et c'est là que nous, et c'est là où les sites et tout cela autour de soi, si on en fait comme ça une valorisation pour être mannequin, vous comprenez que ça va favoriser, c'est pas ça qui va créer l'anorexie, mais ça va favoriser le fait qu'on dit c'est mon droit, et d'ailleurs c'est beau, et d'ailleurs c'est maintenant c'est la mode, et finalement c'est pas du tout une maladie alors qu'on n'a pas le choix.
Emeline Valérie Boyer nous dit que nous parlons beaucoup d'anorexie, mais dit-elle, l'anorexie est plus facilement reconnue comme une maladie alors que la boulimie, elle, requiert, dit-elle, une certaine lutte parce que bien souvent, donc, on considère que les gens...
Ça peut passer inaperçu, beaucoup
plus facilement. Ça ne se voit pas.
Oui. Valérie Boyer.
Enfin, ça ne se voit pas, sauf que les femmes, en général, je dis les femmes, mais parce que ça concerne 90% des femmes qui sont boulimiques.
Il y a un peu plus d'hommes boulimiques. Oui. Il n'y a de dents anorexiques.
Et celles qui se font vomir, ça se voit même à la respiration, parce qu'à un moment donné, à force de vomir, eh ben, ça modifie votre bouche, les dents, les phanères, votre façon de respirer. Donc, les professionnels de santé.
Le syndrome du hamster.
Exactement. Les professionnels de santé le voient. Ce que je voulais dire, c'est vrai que ces troubles du comportement alimentaire, ils touchent tous les âges. Et on a même observé des pics de comportement anorexique chez les femmes adultes, un petit peu avant la ménopause, qui sont peut-être gagnées par cette volonté d'avoir une silhouette de jeune fille. Et ça, cette pression sociale aussi, elle est très importante. Et je pense qu'il faut aussi en parler.
Valérie Boyer, donc on a compris que politiquement, il y avait encore du travail à faire pour venir à bout, tenter de venir à bout de ces maladies.
En tout cas, bien les prendre en charge.
Merci en tout cas d'avoir exposé votre point de vue à ce sujet et professeur Jamais, on retrouve vos ouvrages, notamment Anorexie, Boulimie, Les paradoxes de l'adolescence aux éditions Fayard. On écoute Morsheba Otherwise et tout de suite après, on entend le mot du psy. In disgrace, you're calling me mad, but I know you're the same. 'Cause you gotta be seen to be playing the game. Yes, we gotta be seen to be playing the game. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now, every time you criticize. I'm under your curse now, but I call it compromise. I thought that you were wise, but you were otherwise. A specimen like you, I would love to obtain. With a backsummer soul, I wanna take out your love, but it's locked in a vault. I wanna take out your love, but it's locked in a vault. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now. Every time. Service public sur France Inter, voici maintenant le mot du psy.
Voilà, donc inconscient et subconscient, c'est une question de souplesse. Inconscient et subconscient, et deux conscients et subconscients, maintenant on réfléchit bien sûr, et trois conscients et subconscients, hein, tout dans les genoux.
Peut-on rire de tout ? Serge Effes, ce n'est pas le sujet de la dissertation de philo du bac, mais une question que vous vous posez. Alors que la recevabilité de la plainte pour injure publique et apologie de génocide intentée par l'association Communauté Rwandaise de France et Annie Kayitesi, écrivain franco-rwandais que nous avons reçu ici à l'encontre de la chaîne Canal+, va être examiné à l'audience de la Cour de cassation le 23 juin en session plénière.
En effet, Guillaume, et j'espère que les auditeurs me pardonneront le manque d'originalité de cette question qui revient régulièrement à la faveur des différentes polémiques sur l'humour noir, raciste ou sur des déclarations litigieuses qui devraient ou pas être prises au second degré. Charlie ou par Charlie, cette question est devenue ces derniers mois obsédante. Elle oppose les partisans de la décence, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas rire, comme la Shoah, les partisans de l'humour sans limite, qui se voient en héros de la liberté d'expression, et diverses approches plus nuancées, comme ceux qui citent la maxime éculée de Desproges, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Et bien sûr, en tant que psy, je ne peux que vanter les vertus du mot d'esprit, du rire libérateur, qui peut parfois révéler les ambiguïtés de l'inconscient, désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables, et fustiger les angoisses mortelles. Dans ce sens, oui, on peut rire de tout, on doit rire de tout, du physique des gens, du malheur des autres, des pauvres, des riches, des vieux, des jeunes, des arabes, des juifs, des psys, des politiques, des autres, de soi-même, du pape, de Dieu.
Mais aujourd'hui, Serge, vous n'avez plus beaucoup envie de rire.
Ça s'est passé sur Canal+, le vendredi 20 décembre 2013, un avant-goût des fêtes de Noël. Tous ceux qui font rire étaient là. Le programme humoristique s'appelait Le Débarquement et il se proposait de pasticher une célèbre émission dans laquelle une vedette va passer quelques jours chez de bons sauvages dans une contrée lointaine, des peuples premiers si vous voulez. La vedette habite courageusement leur case inhabitable, mange leur nourriture immangeable et finit par se libérer de toute pensée essentialiste en constatant que l'humanité de ces primitifs est somme toute équivalente à la sienne. Pasticher cette somme de bons sentiments fleurant le colonialisme de Tintin au Congo paraît donc plutôt bienvenu. Et pour pasticher, pourquoi pas le Rwanda, ce pays qui a connu un petit génocide, tout juste 1 million de morts. Deux vedettes, un monsieur et une dame, mangent la nourriture locale en espérant que ça n'est pas de la chair de Hutu. Ça, c'était le premier gag. La dame avait cherché à adopter un enfant Tutsi. C'est normal, un génocide, ça fait des orphelins. Mais cet orphelin n'est pas assez orphelin. Voilà Tipa qu'on retrouve des membres de sa famille. Quel bordel, ce pays, s'écrie-t-elle. Elle dégote un autre orphelin dans un village entièrement rasé. Eh bien, il lui reste quand même une tante. Les Hutus n'ont vraiment pas fait leur boulot. Éclat de rire dans la salle. Pour se consoler, tout ce petit monde entend une chanson populaire rwandaise sur l'air de Colin mon petit frère. Fais dodo, Colin mon petit frère, car les autres sont morts, rire dans la salle. Maman est en haut, coupée en morceaux. Papa est en bas, il lui manque des bras. Rire, applaudissements. Mon amie Annie Kayitesi, que j'ai accompagnée l'année dernière dans son pays pour commémorer le 20e anniversaire du génocide des Tutsis du Rwanda, mon amie Annie qui a vu à l'âge de 12 ans sa mère massacrée par les milices Hutus et à qui on a donné l'ordre d'éponger son sang sur le sol, Annie qui a recueilli sa sœur laissée pour morte, tailladée à la machette sur tout le corps et le visage, Annie donc, 20 ans après, était devant sa télévision avec ses deux jeunes enfants. Elle a eu à peine le temps de mettre les mains sur les oreilles de ses enfants, dont toute la famille avait été découpée en morceaux et qu'aimait bien chanter Colin mon petit frère. Peut-être n'a-t-elle pas suffisamment le sens de l'humour, elle a donc porté plainte. Et oui, il est sans conteste des rires qui exorcisent les chagrins et désacralisent la bêtise, il en est qui nous déshumanise. Cette déshumanisation, c'est justement l'arme des génocidaires et elle est le début de la barbarie.
Merci Serge Effes pour ce point de vue et donc l'audience aura lieu le 23 juin prochain à la Cour de cassation. Bonjour Nagui, tout autre chose, la bande originale,
absolument.
Elle a le droit de rire et que va-t-il se passer aujourd'hui dans la bande originale?
C'est Jean-Jacques Hano qui va venir nous raconter tout des loups et de ses tournages particuliers en Chine, en Mongolie pour être précis. Voilà,
et
vous savez.
Le loup est un loup pour et l'homme, comme
dans
vous
la bergerie.
Savez. Et l'homme, un loup aussi pour le loup. Voilà, on vous écoute tout de suite après le flash, Nagui.